l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Bonjour Yann.
Bonjour Claire.
Donc on va parler avec toi aujourd'hui de ce qui se passe à Marseille, parce que tu es Marseillais, une petite exil régulier dans la vallée de la Méouge.
Ouais, tout à fait, oui. Ouais, ça fait, je sais plus trop, 5-6 ans que je viens très régulièrement pour compenser un peu les difficultés que je peux avoir en ville. De vie, quoi, de quotidien, tout ça, et puis parce que c'est aussi un endroit où je peux m'épanouir à travers les activités ici, les contacts, les relations, les événements, le bénévolat. Et donc on a une ligne qui est fondamentale pour nous, qui est la ligne TER Marseille-Briançon, auquel on tient beaucoup. Et donc je jette mon vélo dans le TER à Marseille, je m'arrête à l'arrêt concerné ici. Je monte sur mon vélo avec mes sacoches et je grimpe gentiment les gorges de la Méouge. En me délectant du calme et de la vue.
Donc ici, c'est les Alpes de Haute-Provence. On est au tout début des Alpes. Climat plutôt méditerranéen, il fait chaud, il fait plutôt sec. C'est super beau, c'est sauvage ici, une petite vallée assez encaissé, assez loin des grandes villes en fait. Ouais. Et alors pour un Marseillais comme toi, c'est intéressant. Donc toi, tu aimes ta ville, Marseille, non? Certainement.
Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je crois que Marseille, c'est une ville qui génère une espèce de relation haine-amour. En fait, Marseille, c'est une ville très militante depuis très longtemps. Où il y a un bassin associatif. En fait, c'est Marseille, c'est les associations qui ont maintenu la ville en perfusion et pendant des années et qui ont compensé un petit peu les manques de créativité, d'initiative et d'action des pouvoirs publics. Moi, j'ai pas mal bossé dans l'habitat, on a un schéma littéralement déplorable, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau du développement de la ville. Enfin, on était vraiment sur quelque chose de très... dans une permanence, quoi, dans une espèce de permanence immuable qui évoluait très peu. Et je crois qu'il y a eu une grosse charnière en 2013, quand Marseille a été capitale européenne de la culture. Un véritable fiasco pour ce qui était de l'opération elle-même.
Du coup, toi, comment ça se passe en tant que cycliste et pour les autres cyclistes, justement, ouais. Est-ce que tu as vu les choses un peu évoluer? Il y a eu des pistes cyclables qui ont été mises en place, des aménagements. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je crois que ça fait 20 ans qu'on gagne le Biclou d'or, qui est donc le trophée qui récompense donc la ville la moins cyclable de France. Il y a encore 3-4 ans, j'avais rencontré des gens qui avaient des postes donc, sur l'activité cyclable au département et à la région, qui me disaient clairement que c'était des emplois fictifs en fait. Et là en fait, donc il y a eu une lente progression, on va dire, depuis 2013. Et aujourd'hui, il y a plein de collectifs, plein de pôles qui se réemparent en fait, de cette question-là du militantisme à vélo. Et très concrètement, c'est le confinement qui a vraiment fait comme partout ailleurs, mais on est vraiment passé aux dernières stats, on était 10 000 cyclistes, donc 1% à peu près des 2 millions d'habitants du bassin. Et là, j'aurais du mal à évaluer, mais on a eu au moins 50% en plus de cyclistes. Voilà. Donc en gros, on a des morceaux de piste par endroit, mais il n'y a aucune connexion en fait. Et voilà, donc on est encore là-dedans, avec des collectifs cyclistes qui font apparemment du militantisme, mais qui en fait sont tellement liés aux subventionneurs qu'ils n'osent pas aller au bout des choses. Et il y a des collectifs comme le collectif Ramdam qui s'empare de la question. Et voilà, en gros.
Et donc toi, ça va? Tu n'as jamais eu peur à vélo à Marseille?
Au début, j'étais très naïf. J'ai cru que j'allais pouvoir m'imposer sur la route et tout. Je pourrais parler une semaine et demie à peu près de toutes les agressions que j'ai eues. Et donc, moi, ma stratégie, j'aime bien le BMX, j'aime bien le dirt. Donc, ça a été d'utiliser des vélos très agiles et de plus rouler sur la route. Et donc, j'ai développé une espèce de science de la communication avec les piétons. Donc, je roule. Je m'expose plus, en fait, plus jamais. Je regarde les piétons dans les yeux, je leur souris, je leur montre avec la tête où je vais, je roule doucement. Quand il y a des enfants, je regarde les enfants. Donc les parents me voient regarder les enfants. Ils sentent que je suis connecté au danger possible, que je pourrais représenter pour eux. Donc ils sont rassurés. Enfin, c'est tout un protocole, en fait, toute une façon de faire. Et en fait, je vais beaucoup mieux. Je vis plus ce choc des civilisations où moi j'essaie de faire les choses bien et que je suis victime de fous furieux qui me considèrent comme moins que rien, qui me mettent en danger et qui nuisent à mon équilibre psychique en fait. Hein. Et donc ma solution, ça a été d'être créatif et de m'amuser avec le mobilier urbain. Donc je saute les escaliers, je câble, je fais des roues avant. Et donc le vélo, c'est redevenu comme quand j'étais gamin, un moyen d'expression pour moi. Voilà. Et en fait, j'ai sublimé toutes les contraintes. Et j'ai fait de cette contrainte une chance, en fait.
Aujourd'hui, ouais. C'est devenu un plaisir et un jeu.
Ouais, enfin, ça l'était en tout cas. Mais depuis le confinement, on a eu un petit peu plus d'aménagement. Donc, je me suis senti moins légitime dans mon ancienne méthode. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelques aménagements par endroit. On va quand même les fréquenter. Et là, bon, ça implique donc de se retrouver sur une piste cyclable où les piétons traversent sans regarder. Ça implique de se retrouver face aux bagnoles de pompiers, de flics qui utilisent ça comme une voie d'opportunité. Ça veut dire croiser les scooters à fond la caisse qui nous regardent de travers à 60 km/h, des voitures garées, des nouveaux cyclistes qui papillonnent sur leur portable, qui nous foncent dessus, les trottinettes. Enfin bon, en fait, j'étais beaucoup mieux avant. Honnêtement, dans mon système d'avant. Mais là, je tente de jouer le jeu en me disant, bon, ça va peut-être prendre quelques années encore. Mais honnêtement, j'étais mieux avant, voilà, sincèrement. Voilà.
Donc, reconquérir finalement l'espace de la rue pour le vélo, c'est pas si évident, et même avec les aménagements cyclables. Une vraie guerre, en fait, à Marseille de la circulation, quoi.
Ben, en fait, on repart à ce problème de ville sous-développée, c'est-à-dire que c'est une ville qui va naturellement tourner les usagers les uns contre les autres, parce qu'à aucun moment, il y a eu une politique de vivre ensemble et de réflexion sur le déplacement. Donc forcément, le piéton se retrouve embêté par les guignols comme moi qui vont sur les trottoirs. Les mêmes gens nous engueulent sur les trottoirs et sur la route, parce que pour certains, on n'est pas non plus à notre place sur la route. Donc nous, on leur répond, ben oui, vous avez tout à fait raison, on devrait être sur la piste cyclable. C'est un truc qui marche super bien, donc vous dites à votre interlocuteur, vous avez tout à fait raison. Donc là, ils se sont compris. Et là, il y a un trouble qui apparaît chez la personne, et qui se dit, mais bon sang, où est-ce qu'il y a une piste cyclable dans le coin? Donc voilà, l'avantage, c'est qu'on a une mairie qui est vraiment très partisane de la question du vélo. Mais bon, cette mairie n'a pas forcément la question des transports en main, ou alors à des petits endroits, mais bon, eux, ils sont plutôt sur... des responsabilités autres. Du coup, maintenant, le nouveau objectif, c'est de conquérir la région, le département, pour qu'on ait des gens qui fassent vraiment du vrai travail et qui créent une ville contemporaine où la question des usagers, du métro, du tram, du vélo, des piétons et des voitures soit pensée. Et là, il y a un nouveau truc qui est apparu, c'est que les joggeurs courent sur la piste cyclable. Ils doivent identifier ça à un endroit... un endroit de bien-être et de santé. Il y a encore un boulot énorme. Voilà, énorme, énorme. Moi, je suis fondateur et coordinateur de l'atelier vélo participatif Vélo Seine. Donc Seine comme l'Anthropocène, la période géologique CENE. Et donc, voilà, ça faisait des années qu'on accumulait des pièces, qu'on stockait ça dans nos caves, machin. Et on a eu l'opportunité d'ouvrir un petit atelier donc à la base. La base, c'est donc la base d'action sociale et environnementale, et qui est un lieu qui a été inspiré de la base Paris. Et en gros, il y a Alternativa, Greenpeace. Ensuite, il y a eu un gros crowdfunding qui a rapporté pas mal de pépettes pour lancer le projet. Et donc, en gros, la base, c'est un lieu qui, c'est une espèce de coquille vide avec une gouvernance interne. Et qui propose à des associations, des collectifs qui n'ont pas de locaux, de pouvoir venir faire des réunions, travailler, produire des éléments militants. Et en fait, on est passé d'un schéma, ça permet de rassembler en fait, et de peut-être réussir un peu ce qu'on appelle la convergence des luttes, en tout cas sur certains axes, à certains endroits. Et c'est vraiment une plateforme magnifique de rencontres, d'actions. Le week-end dernier, par exemple, avec Marseille en Transition, qui est un collectif qui essaie de mettre un coup d'accélérateur dans la transition écologique et sociale de Marseille, on a fait un village en transition, le village des transitions. Ça se passait donc au parc Longchamp, qui est un grand parc à Marseille. Et en fait, l'ambition, c'était de pouvoir montrer au grand public, qui est venu assez nombreux, toutes les transitions possibles au quotidien, c'est-à-dire comment on peut se déplacer autrement, comment est-ce qu'on peut se chauffer autrement, les fournisseurs d'énergie, comment habiter autrement avec les habitats participatifs, des fours solaires, des choses comme ça en fait.
Pour trouver finalement les clés d'action pour les gens intéressés, quoi. Et puis surtout, ouais, les contacts locaux, non ?
Voilà. Et une grosse mise en relation des gens entre eux, en fait. Et on a eu autant des gens du quartier à proximité, mais aussi des Marseillais qui venaient de l'autre bout de la ville, qui étaient intéressés par le projet. Il y avait des assos de jardinage aussi. Donc on a fait ça. Il y a eu la marche pour le climat, où il y a pas mal de collectifs qui sont investis là-dessus. On a participé, je crois que c'était début octobre, à la journée nationale contre l'aviation, où on a fait une grosse action à l'aéroport de Marignane, Provence. On a fait un festival zéro déchet.
Tu me parles de Marseille, mais ici on est dans la Méouge. Je voudrais savoir quel rapport tu peux avoir, toi, personnellement, à des endroits aussi naturels, aussi préservés que la vallée de la Méouge. Ouais. Quels sont tes besoins et qu'est-ce que tu trouves ici dans la nature ?
Moi ça me permet de m'équilibrer, hein, tout simplement, hein, en venant très souvent ici, des fois je reste un mois. Ici il y a un gros réseau de ce qu'on appelle de néo-ruraux, qui en reproduit des schémas ancestraux de collaboration, par exemple. Donc ils s'entraident les uns les autres, donc un coup on va faire un chantier chez machin, après on va faire un chantier chez machin, on va construire le four de la boulangère, on va couper les charpentes, les bois qui vont servir de charpente pour un tel. Et en fait, c'est cette logique d'entraide, en fait, et de réseau vraiment qui s'organise pour tout, en fait, pour la bouffe, pour les transports, pour les fringues, pour l'énergie. Et voilà, c'est aussi la bienveillance qui m'intéresse ici, quoi, le fait que les gens ne soient pas complètement azimutés par ce qu'on peut avoir nous chez nous. Et passer à d'autres niveaux vibratoires et d'autres niveaux d'échange. Voilà. De toute façon, moi, je ne vais pas rester très longtemps à Marseille. Hein. Je suis en train de commencer à esquisser des schémas très précisément, très concrètement, pour m'échapper. Quoi. Voilà.
Vous êtes nombreux parmi tes amis à vouloir quitter la ville ?
Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Puisque finalement, mes amis, la plupart, ils sont impliqués dans des mouvements comme ça, urbains, de résilience, en fait. Et je pense que c'est ce qui permet de tenir le coup, et c'est probablement ce qu'il faut aux villes. Hein. Voilà.
Qu'est-ce que tu trouves ici que tu ne trouves pas en ville, ou que tu aurais peur si tu venais t'installer définitivement, vraiment dans une zone rurale, de ne pas trouver et qui te manquerait de la ville ?
Ça, c'est déjà vécu. Hein. Des fois, je suis resté un ou deux mois ici. C'est vrai que quand on a 18 ans, on regarde la rue principale et qu'il n'y a pas une bagnole qui passe, éventuellement un ou deux chats, une brebis, des fois, on est un peu saisi d'effroi. Hein. Et en fait, c'est justement dans ces périodes longues qu'on s'aperçoit que non, en fait, il y a toujours quelqu'un qui passe, il y a un machin qui a besoin d'un coup de main. Ici, sur le site, à Écologue, il y a une épicerie, donc ça fait quand même pas mal de gens qui passent. Et au final, moi, je connais quasiment tout le monde, hein, dans la vallée, donc ce qui est important, c'est de démystifier un peu la peur d'avoir un manque de sociabilité, en fait. Et au final, au lieu de multiplier on arrive à du qualitatif, en fait. Voilà, à du qualitatif, à notre rapport au temps, à la durée, à soi, aux autres. Mais après, voilà, moi je suis quand même un urbain, donc ça suscite forcément des questionnements. Moi, le schéma que je vois, c'est quand même des allers-retours relativement réguliers.
J'ai perdu mon père en mer. Il partait souvent dans la nuit. C'était terrible. On disait au revoir et bonne pêche. Que Dieu te garde. C'était pagaie. C'était la misère, mais on était heureux. On était ensemble et on était heureux. C'était il y a longtemps et on était heureux. J'étais une enfant et on était heureux. Comme un mineur, mais avec le ciel au-dessus de sa tête et ses baisers, ses doux baisers salés. Quand il rentrait, j'adorais ses baisers. Voir la mer, viens Jean, viens avec nous en mer. En ces temps-là, je pouvais pas voir la mer.
C'est quoi ton prénom ?
Véro.
Donc là, tu es en phase d'entraînement avant la soirée.
Là, je suis en phase de réglage, de son, justement, voilà, d'entraînement, de réglage en extérieur. Et le spectacle s'appelle Véro Véloupe. Véro, vélo, véloupe. Véro Véloupe.
Tu passes toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer Martine Vassal pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on nous rattrape. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on nous rattrape. Plus qu'on nous rattrape, plus qu'on nous rattrape, plus qu'on nous rattrape, plus. Plus qu'on nous rattrape, plus qu'on nous rattrape, plus qu'on nous rattrape, plus. plus qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus, plus qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'enfarer moins bâtard. Mais cesse de faire le point, serre un peu les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui t'enviaient aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années. Qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus.
Alors, tu viens parce que tu es proche de Vélocène, l'association, donc l'atelier vélo de Marseille.
C'est ça, je suis proche du CVV, de Vélocène, des Vélorussionnaires. Cette année, il n'y a pas de Vélorussion universelle et du coup, c'est un petit peu nos retrouvailles là. Il y a des gens de Grenoble, des gens qu'on voit chaque été.
C'est quoi la Vélorussion universelle ?
La Vélorussion universelle, c'est un rassemblement de cyclistes qui a lieu chaque année le premier week-end de juillet dans une ville de France. Tout le monde s'y retrouve et ensuite part sur les routes. Et on a des gens qui viennent de Belgique, d'Italie, de France, de tous les ateliers de France. Et c'est la fête pendant 3 jours dans une ville. Et ça devait être à Bernay l'année dernière et à Bernay encore cette année. Mais on s'est fait Bernay. Il n'y a pas, à cause du Covid, j'imagine. Donc, on ne sait pas. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de VU là. L'année prochaine, peut-être.
Et alors, ça sert à quoi c'est...
Ça sert à rien. Ça sert à nous retrouver. Et puis, le dimanche après-midi, le dernier jour, en fait, on vote à main levée. Où est-ce qu'on se retrouve l'année d'après ?
Tu trouves vraiment que ça sert à rien ?
Non, ça ne sert pas à rien, je plaisantais. Mais non, c'est super. Ça nous fait nous retrouver, Voilà. Il y a des gens qu'on ne voit que là, c'est drôle. On fait beaucoup de vélo dans la ville, on prévient personne. Donc pas la préfecture, tout ça, très peu en tout cas. Du coup, les gens voient arriver des centaines de vélos, parfois des milliers. À Paris, c'était des milliers. À Marseille aussi, en 2013. À Bruxelles, il y a eu des capitales. Mais là, ça devait être une Vélorussion campagnarde, en Normandie.
Ça ne sert pas justement à dire il y a des cyclistes, il ne faut pas les oublier, la rue est aussi à nous.
C'est ça, comme dans toutes les Vélorussions au fond. Mais c'est le principe de l'universalité par contre. Qui est pas... Mais c'est chouette de se retrouver tous et de faire du vélo ensemble dans la ville et de monter des petits projets marrants comme ça.
Quoi ?
Je ne sais pas, comme par exemple dans une gare, je me souviens qu'on a fait un faux... qu'on a monté à l'arrache dans les escaliers de la gare qui n'avaient pas de possibilité. Il fallait porter son vélo. On a monté une rampe pour faire monter les vélos avec du bois et du béton.
C'est vraiment l'idée de ne pas attendre rien du tout des pouvoirs publics, mais voilà, on se débrouille, action non violente, on a besoin de ça, on le fait, quoi.
Et puis comme on était très nombreux, par exemple à Nevers, on est allé sur une autoroute. On a bloqué une autoroute, enfin une 4 voies, je crois que c'était une 4 voies, ouais, non. On a bloqué l'autoroute, mais on était sur la 4 voies et on est allé à l'aéroport. C'était très sympa aussi, ça. Voilà, donc ceux qui organisent quand même sont volontaires hein, pour organiser et mettre au point des actions que seule la communauté multiple, qu'en fait, que seul le nombre peut permettre de réaliser. Donc ils se disent, il va y avoir 400 cyclistes, je vais en profiter pour aller sur la 4 voies, faire des actions plus difficiles à faire quand on est très peu nombreux.
Il y a aussi l'idée de masse critique.
Aussi, c'est vrai. C'est ça, de montrer que même si on est des milliers de vélos, les gens qui attendent au feu rouge et qui sont en voiture n'attendent finalement que très peu de temps. Ils ont l'impression qu'ils vont attendre des heures, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc c'est l'occasion de parler aux gens, c'est l'occasion de parler aux cyclistes, c'est l'occasion de nous retrouver. Donc c'est chouette. Et de partir ensuite sur les routes, chacun. Voilà.
Chacun avec une énergie, certainement, c'est ressourçant pour les différentes luttes des cyclistes, chacun dans son coin.
Oui, voilà, c'est... De toute façon, les cyclistes aiment bien se retrouver. Je crois qu'il y a beaucoup de réunions. Il y a la Vélorution, mais il y a aussi le recyclage. Il y a aussi, par exemple, les cyclocamps. Il y en a de plus en plus. C'est à la fois... les cyclistes sont à la fois très indépendants et très fraternels. Du coup, ce genre de réunion leur convient bien.
Alors, toi, tu es cycliste à Marseille?
Voilà. Alors, moi, j'ai largué ma voiture en 2003. Donc tu vois, ça fait maintenant 17 ans et je ne fais que du vélo. Donc je vais au travail à vélo, je pars en vacances à vélo. Là, je vais faire Rotterdam-Strasbourg cet été. Voilà, je fais de la musique aussi sur mon vélo. c'est passionnant.
Et du coup, le vélo à Marseille, ça n'a pas l'air facile. Hein. C'est bien connu, Marseille, pour être une ville de la voiture avec... on peut dire des chauffeurs qui sont très souvent chauffards.
C'est vrai, on gagne le clou rouillé chaque année. Donc voilà, le clou rouillé, c'est comment ça s'appelle,
un trophée
à l'envers, quoi. C'est le trophée de la ville la moins cyclable. Donc avec Biarritz, on la gagne chaque année.
Et c'est qui décerne ce clou rouillé?
Je ne sais pas exactement, je n'ai pas trop regardé qui faisait ça, mais... J'imagine des gens qui calculent le nombre de pistes cyclables, le nombre d'aménagements cyclables et qui établissent un classement, j'imagine, assez honnête en fonction des remontées qu'ils ont.
Et donc, c'est un sport de combat du quotidien?
Ça va, moi, je trouve que c'est plutôt agréable. Après, oui, moi je... Alors après...
Mais comment tu fais du vélo à Marseille, alors, pour que ce soit agréable? T'as des stratégies d'évitement, parce que entre les rues qui sont pour les voitures, tous les piétons sur les trottoirs, c'est où ta place, quoi?
Effectivement, j'ai... Alors d'abord, il ne faut pas être trop pressé, parce que d'abord, les piétons sont prioritaires sur les vélos. Au début, peut-être que je me suis un peu énervée et maintenant, je souris, je laisse toujours passer les piétons, je dis beaucoup merci et je ne m'énerve plus en fait. Et le fait de ne plus m'énerver me fait gagner du temps finalement. Mais oui, j'ai vécu des... J'imagine comme toute personne qui vélo-taf, quoi. Les vélo-tafeurs ont parfois des soucis parce qu'on est dans des horaires difficiles. Mais ça va, on s'habitue quand même. On s'habitue. Ils s'habituent à nous, de plus en plus. Voilà.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.